En un sens, le message central de ce que je vais développer, c'est que les théoriciens gagneraient beaucoup à fréquenter assidûment les théories, l'histoire économique et l'histoire financière. Parce qu'elles révèlent que les crises sont beaucoup plus fréquentes que l'illusion qu'ont les spécialistes américains ou anglais qui ont connu une longue période, pendant 40 ans, d'absence de crise. Premier élément, bien, d'où vient Keynes ? Keynes était pigouvien. Mais il s'avère incapable d'expliquer dans ce cadre-là le chômage durable. Et en un sens, de 29 à 36, il rame pour essayer de trouver une théorie dans laquelle le chômage involontaire de longue durée serait concevable. Le début des années 80 nous marque, ça commence avec une crise à l'époque où le Mexique était une économie émergente, très riche de pétrole. Toutes les banques occidentales ont voulu le prêter. Et nous avons la première crise moderne que va par exemple connaître l'Irlande ou l'Islande. Donc vous voyez très bien que, intéressant, depuis 1984, nous aurions pu éviter la crise des Islandais. Je suis sûr qu'ils en seraient très très contents, ou des Irlandais. Parce que, pourquoi ? Parce que l'économiste a considéré que c'était des phénomènes exotiques, c'était des pays en retard, qui n'avaient pas une bonne régulation, qui avaient une culture confucienne, et non pas protestante, éthique, etc. Ils se trompaient, parce que je vais essayer de vous démontrer qu'il y a des invariants. Et alors, le comble de l'obscurcissement de la vision de la crise, c'est la grande modération. Et les deux phrases avec des deux auteurs que vient rappeler Roger est intéressante. Hein. Olivier Blanchard dit « La théorie macro, tout le monde est d'accord, on a presque tout compris, il n'y a plus que les boutons de guêtre et les rideaux aux fenêtres », alors que ces théories sont témoignent de crises cycliques venues d'extérieur et pas les grandes crises qu'on va connaître. Et la grande modération a donné l'idée, on peut éviter les crises. Si par hasard elle se présente ultra facile, la Banque centrale y pourvoira. Et troisièmement, la théorie macro est presque achevée. Et du coup, a quasiment disparu de l'enseignement des universités dans le monde entier. Un, l'enseignement de l'histoire économique, et deux, les crises. Oh, ça n'existe plus, c'est remplacé par des petites crises. Alors moi, il me semble que c'est assez impressionnant, et j'en veux pour preuve la reine d'Angleterre, qui écrit une lettre à la Royal Academy britannique, dit « Mais écoutez, vous qui êtes si intelligent, vous pourriez m'expliquer comment vous n'avez pas vu venir, ni compris, ni capable de conseiller le gouvernement dans les crises. » Et la réponse du président a été tout à fait ambiguë. Nous sommes peuplés de gens extrêmement innovatifs, intelligents, mais ils n'ont pas compris les effets systémiques. Vous voyez très bien que les grandes crises posent un problème d'enchaînement pervers systémique. Or, une grande partie des modèles sont construits sur l'hypothèse de stabilité structurelle de longue période. Donc, le touche-écoulé, lorsque les deux arrivent, il y a un trou béant dans lequel tombent les économistes. Et alors, ce qui est quand même impressionnant, c'est que maintenant, les économistes ont conscience que face à l'opinion publique, ils ont quand même intérêt à développer une théorie des crises. Et alors, la chose qui est tout à fait intéressante, c'est que le mieux à faire, les grandes crises comme 29, comme la crise japonaise, etc., sont des crises rares. Mais si on accumule dans le temps, depuis l'émergence de la protection des tulipes, et dans l'espace, on a un grand, grand nombre. Donc, en multipliant ces épisodes-là, on peut essayer d'isoler des mécanismes. C'est ce que je vais essayer de proposer. D'abord, moi, ce qui me choque, c'est la banalisation du mot crise. N'importe quoi est crise. Il y a une crise de la démocratie, crise de la représentation, crise de la sécurité sociale. Ça ne va pas du tout ça. Vous allez voir, ce n'est pas du tout ça. Pourquoi s'intéresser aux crises ? Et je vais vous montrer que les crises sont extrêmement coûteuses. Je donne un exemple qui m'est cher. La crise de la crise de change argentine a détruit entre un tiers et 40% de la classe moyenne argentine. Donc les coûts, je peux vous signaler, sont absolument... Les Irlandais ont failli payer 120% du PIB pour renflouer les banques. Donc les coûts sont absolument considérables. Ce n'ont pas des coûts de second ordre. Alors que le policy mix qui optimise l'arbitrage chômage-inflation dans la bonne époque keynésienne, c'est presque rien, c'est des effets de second ordre. Ces effets de crise sont des effets absolument majeurs. Et il me semble que si on analyse la répétition de ces crises et qu'on essaie de se représenter les mécanismes intellectuels à l'œuvre, alors on peut trouver une boîte à outils et avec cinq mécanismes extrêmement simples, non, je ne dirais pas ça, mais relativement robustes et génériques, on peut, en les recombinant, expliquer toutes les crises, y compris la plus récente. On peut bien sûr maintenant rendre la crise actuelle intelligible, mais elle est ultra spécifique, parce que le capitalisme est innovation technique, organisationnelle, institutionnelle, politique, de telle sorte que la crise a des frais nouveaux. Et c'est pour ça que Ben Bernanke, qui est le grand spécialiste de la crise de 1929, le grand théoricien de l'accélérateur financier, s'est trouvé fort désarçonné, parce que nombre d'aspects de la crise actuelle échappaient à sa théorisation. Vous voyez ça, mais il y a eu une innovation qui rend, pas obsolète, mais insuffisante, les connaissances accumulées. On relâche la politique monétaire, on laisse sous les stabilisateurs automatiques, et ce n'est pas suffisant, parce qu'à cause de l'innovation financière, des nouveaux problèmes sont arrivés. Alors bien sûr, j'ai développé la nouveauté des crédits, et je te conclurai. Voilà un menu. Alors, recherche d'une définition. Ce qui me choque, c'est la crise actuelle sociale. Il n'y a pas de crise, il y a un déficit récurrent et permanent. Crise de l'emploi, ah non, il y a précarité et le fait qu'une fraction de la population active reste durablement au chômage. Ce n'est pas une crise. La crise, comme dans l'idéogramme chinois, c'est moment crucial où on sait si le malade va périr ou s'il va survivre. Donc il y a une sorte de dramatisation. Le 15 septembre 2008, c'est une crise. Parce que Wall Street eux-mêmes se demandait, allait revoir Inside Job, se demandait si le capitalisme existerait le jour d'après. C'est ça une crise. Le fait que le taux de chômage en France soit passé de 1,2 en 67 à, hélas, 10 avec des actualisations, ce n'est pas une crise. C'est, il faut expliquer l'existence d'un chômage durable et volontaire, ainsi de suite. Il y a un modèle plus sophistiqué. Puisque une crise, on a bien l'impression qu'il y a. Il y avait un équilibre haut, l'économie française croissait à 5%, et brutalement, elle ne croît plus qu'à 2% et 1%. D'où l'idée, dans un modèle non linéaire, d'un modèle à trois équilibres, dont l'un stable au milieu. Et alors, la façon la plus satisfaisante serait d'imaginer que, en fait, on a des bons équilibres, où se synchronisent les anticipations vers le haut, et des mauvais équilibres. Donc, c'est déjà bien meilleur. Mais ce qui ne plaît pas beaucoup, c'est qu'apparemment, on oublie complètement le processus. Le processus, c'est comme le glissement brutal d'une nappe d'équilibre à une autre, alors que vous allez voir que les crises sont des processus dynamiques qui se développent à l'intérieur d'une même série de mécanismes. Si maintenant on regarde la définition des historiens, alors maintenant, eux, ils ont des... Alors, il y a d'abord le cycle des affaires normales. Depuis 1967, dès lors que l'impulsion est celle de l'accumulation industrielle, les cycles sont largement endogènes. Bien sûr, il y a les crises du coton, il y a les crises internationales, il y a les guerres, mais il y a un cycle endogène. Et c'est ce cycle des affaires qu'ont étudié toute la théorie économique sur les cycles. Mais la grande nouveauté, c'est 29-32, où le cycle, une fois, au lieu de s'apurer, les banques font faillite, la dispense de revenus se recompose, l'investissement reprend. On a une chute libre de l'économie avec déflation et dépression, chômage de masse. Et du coup, vous voyez très bien, il y a un autre sens de la crise dans lequel l'économie se trouve bloquée dans un équilibre où clairement le capital est sous-utilisé, les banques font faillite, le chômage est très grand. Et enfin, dernier élément, avec le premier choc pétrolier auquel on attribue beaucoup de choses, on s'est aperçu que les économies croissaient avant rapidement et si on fait des tests économétriques, on s'aperçoit qu'il y a brutalement une chute pour tous les pays non émergents, c'est pour les pays de l'OCDE. Donc ça, c'est la vision des économistes, des historiens de l'économie. Là, ce qui me semble intéressant, c'est maintenant les théoriciens de la finance. Et moi, je vais faire la publicité à l'ouvrage de Kindelberger qui s'appelle Mania Panic Crashes, qui fait cette histoire-là, avec la nuance que pour lui, ces spéculations sont irrationnelles, alors que la question de rationalité n'est pas nécessairement posée. Les traders et les spécialistes de Goldman Sachs me semblent incarner une rationalité assez poussée. Donc ça, il ne faudrait pas les accuser d'être un peu obscurantistes. Mais il y a une histoire intéressante pour tracer une taxonomie de l'évolution des crises financières. Deuxième élément, j'ai été surpris qu'on invoque Keynes pour justifier les politiques de relance. Et le grand auteur, c'est Minsky, qui dit que dans le capitalisme, les grandes entreprises ont intérêt à augmenter leur endettement pour maximiser leur rythme de croissance, prendre des parts de marché. Et le phénomène endogène, c'est le retournement par effet d'excès de crédit. Donc le grand dit économiste a qualifié de 2008 à 2009 le moment de Minsky. Et c'est vrai que lorsqu'on est dans ces périodes-là, c'est ce phénomène-là financier qui est présent dans le cas. Enfin, dernier point, Par exemple, Krugman s'est spécialisé dans l'analyse de toutes les crises financières à partir de la crise asiatique et des crises d'abord latino-américaines, asiatiques, et on a eu une spécialisation qui est apparue. Alors, Roubini s'est fait une grande spécialité à être le grand spécialiste des crises à travers l'analyse précise des crises qui se succèdent loin des États-Unis, loin de l'Europe, mais qui était quand même très intéressante au niveau conceptuel, etc. Si maintenant je plaide pour ma paroisse, dans la théorie de la régulation, il existe des régimes stabilisés, lorsque l'ordre institutionnel est relativement stable, et les cycles semblent tout à fait naturels. Dans le modèle de l'après-guerre, la fin du cycle se marquait par le relèvement des taux d'intérêt qui faisait chuter la demande et ralentir la demande, développer le chômage. Donc c'est un cycle au sein d'un mode de régulation. Et puis, imaginez que vous allez en Italie et vous avez des luttes ouvrières qui demandent une indexation très forte du salaire nominal sur les prix. Vous pouvez imaginer, vous avez une crise du mode de régulation, au sens où la capacité de contrôle par le ministère des Finances et la Banque centrale échappe au mode d'organisation intérieure. Et puis, imaginez que vous passez dans le cas de la France. Imaginez que, par exemple, ce tarif aux États-Unis, les gains de productivité globale des facteurs étaient de l'ordre de 2%. Brutalement, ils s'annulent pendant 10 ans. Vous voyez très bien que c'est, pour reprendre l'image de Roger tout à l'heure, la régulation, c'était l'accélérateur et le frein. Le régime d'accumulation, c'est le moteur. Et le drame de l'économie américaine, c'est que l'excès du moteur injection a fait gripper le moteur. Vous voyez le problème là. Et, dernier point, crise du mode de développement, eh bien, allons en Union soviétique, parce qu'elle existe encore, malgré les multiples réformes qui se succèdent de Brezhnev à Gorbatchev, on essaie d'introduire les ordinateurs, la décentralisation, on n'arrive pas à sauver les deux institutions de base, qui étaient le Gosplan et le Parti communiste. Et c'est une crise du mode de développement qui explique que, par exemple, la dépression en Russie ait duré 5 ans, parce que c'est l'effondrement de régime presque équivalent à celui de l'effondrement du système féodal. Vous voyez la hiérarchie, vous voyez la complexité des crises. Et alors, si je prenais un exemple, dans le mode de développement, c'est toute la voiture qui est à refaire, tous les freins, la suspension, la direction. Et vous voyez très bien, c'est ça. Vous voyez, il y a une gradation énorme entre les crises. Et vous comprenez la complexité de la crise et pourquoi j'ai passé quasiment 25 ans à étudier les crises. Alors, 5 raisons d'étudier les crises. 1, ben, il y a une recrudescence tout à fait considérable. Même avant Reinhard Rogoff, que je conseille de lire, Vista is different. Il faut lire de page à page cet ouvrage. On s'aperçoit que si on les prend au niveau mondial, bien sûr, les économistes sont trop auto-centrés sur leur propre nation. Donc, ils ne regardent pas. Mais les crises sont rares, donc il faut les regarder au niveau mondial. Et bien, on s'aperçoit qu'on avait deux. Avec le passage au change flexible, on avait deux types de crises, crise bancaire, crise de change, et les deux se confortaient. Donc, on a eu clairement la multiplication. Donc, l'objet, vous voyez, est né, né dès les années 73, l'effondrement du système de Bretton Woods. Donc, on a pas mal d'observations. Les crises boursières sont difficiles à définir parce qu'il faut se dire quand est-ce que c'est grave. Il y a toujours alors on finit par baisse de plus de 15% pendant 2 trimestres, etc. Et alors vous voyez très bien que la chose qui est intéressante, énorme crise boursière dans les années 30, crise boursière de l'Internet, et entre les deux, très, très rare crise, 69, c'est celle des fusions et acquisitions. Donc à nouveau, chose intéressante, il y a aussi un rythme des crises financières. Et la grande question, quelles seraient les variables institutionnelles qui influent sur la fréquence des crises? Ça serait la grande question. Voilà. Et alors, bien sûr, dernier point, les crises ne s'accélèrent pas, parce qu'il y a une vision un peu pessimiste qui aussi. Mais par contre, elles changent de forme. Et alors, ce qui me paraît impressionnant, c'est que. Alors, Krugman a écrit successivement 4 papiers sur crise première génération, deuxième génération, troisième génération, et on est en train de trouver le modèle de la 4e génération. Et si vous suivez mon exposé, vous comprenez pourquoi il est difficile de formaliser ça. Alors, premier, on commence. Les banques nationales s'en mettent en dollars. Lorsqu'il y a des afflux de capitaux, les capitaux se retirent. Simultanément, les banques font faillite parce que la banque centrale thaïlandaise ne peut pas créer des dollars. Et simultanément, le taux de change s'effondre parce que par arrêt des afflux de capital. Donc, vous voyez très bien, tout à fait, premier type de crise. Crise majeure argentine de la dette souveraine. Alors ça, c'est un point encore plus important. Malgré l'interdiction de financement bancaire de monnaie endogène, s'effondre dans ce cas-là. La monnaie souveraine le change bancaire parce que dans ce cas encore plus extrême, les banques pouvaient émettre des crédits en dollars alors qu'hélas, elle ne pouvait pas en créer. Et donc, vous avez là un élément tout à fait important. Et deuxièmement, elle pensait que la dette argentine était sûre, c'est-à-dire c'était l'actif AAA. Et vous voyez, lorsque s'effondre l'entrée, tout s'effondre simultanément, y compris les luttes sociales, y compris cinq présidents se succèdent dans l'espace d'un trimestre. Vous voyez, à nouveau, c'est la crise, c'est une crise conséquente. Et j'ai passé beaucoup de mon temps avec mes collègues argentins à démêler les fils de cette crise. Quatrième remarque, les économistes, lorsqu'ils voient une grande crise, et nous vivons une grande crise au sens de la théorie de la régulation, ils disent, voyons, comparant à 1929. Alors, la première fois que c'est arrivé, c'est la bulle Internet en 2001. Et je vais essayer de vous montrer que la crise d'Internet était relativement mineure. C'était une crise boursière. On a perdu du capital. 2000 milliards de capital financier se sont évaporés. Mais l'articulation à l'économie réelle était seconde. Donc, on n'a pas eu le même effet. Vous voyez à nouveau la difficulté de l'économie. La même chute des cours boursiers que le jeudi noir. Et pourtant, ça n'a pas le même effet. Pourquoi ? Parce que le mode de régulation a changé, l'articulation a changé par rapport à l'entre-deux-guerres. Alors bien sûr, la grande surprise qui a pris de court tous les milieux financiers, c'est que l'actif non risqué, c'était la dette publique des États, des pays avancés. Et alors, si l'un d'entre eux commence à défaillir, bien que la Grèce ait une longue histoire séculaire de faire défaut, alors tout le calcul financier disparaît et on s'aperçoit que les deux seuls actifs qui restent sont la dette américaine et la dette allemande. Vous voyez à nouveau, l'aspect désynchronisation des anticipations, des visions de l'avenir sur lesquelles Roger a insisté. Et alors, troisième phénomène, avec la globalisation, la transmission est monumentale de pays à pays. La Grèce manque de faire défaut, on va au Portugal, puis on va en Italie, puis etc., en Espagne, de marché à marché. Du marché boursier, du marché de crédit, du marché dérivé, du marché immobilier. Et bien sûr, au-delà même de la détérioration des fondamentaux. Si on regarde bien, dans le cas de l'Italie, aucun événement majeur n'avait détérioré les fondamentaux. Mais c'est tout simplement la façon d'analyser la soutenabilité de la dette européenne change, et alors brutalement. Vous voyez, donc, vous voyez à nouveau le caractère très difficile de la prévision, puisque c'est un phénomène de formation des visions collectives. Et il y a un aspect de contingence totale. Alors, les crises sont extraordinairement coûteuses. Regardez le tableau qui suit. Alors d'autant plus que dans ces cas-là, la plupart du temps, c'est un mécanisme d'accroissement des inégalités. Elles décroissent au niveau supérieur, parce que les revenus financiers s'effondrent, mais au bas, à travers le chômage, vous avez donc ça a des effets sociaux et politiques non négligeables. Alors, vous voyez que dans ce cas-là, par exemple, prenez le cas, dans certains pays, la perte de production, même si c'est techniquement un peu difficile, parce qu'il y a surestimation de la croissance avant la crise et sous-estimation après, ce sont des pertes de l'ordre de 10, 20, 15%, et l'engagement des finances publiques est tout à fait considérable. Donc les coûts sont de première grandeur. Hein. Avec ces coûts budgétaires, on peut financer des tas de choses, hein, la formation professionnelle, la couverture sociale, la santé. Il faut bien voir, on ne traite pas d'un phénomène de second ordre, et les effets sur la société sont ceux que vous savez. Et alors, dernier point qui stimule le chercheur, les crises sont fort difficiles à prévoir. Imaginez que moi j'ai appris que science, c'est l'intérêt scientifique, c'est prévoir. Alors je peux vous dire, si j'applique le syllogisme, les économistes n'ont pas d'outils. Pourquoi ? La crise du SME ne produit pas l'entrée, vous savez, le cheminement de l'Europe du Sud vers l'accession à l'euro, c'est 93-94, ne reproduit pas les crises d'Amérique latine. La crise asiatique était comme un coup de tonnerre. Les finances publiques étaient très bien gérées. Dans le cas de l'Amérique latine, c'était l'excès de dépenses publiques qui causait la crise de change et la fuite des capitaux. Dans les cas asiatiques, c'est un mécanisme tout à fait différent de spéculation interne, d'attrait. Troisième élément, mais éclatement de la bulle Internet, et pourtant, on s'attendait à ce que ça soit la décennie perdue japonaise. Et pas du tout. À travers un changement de politique, voilà la reprise de l'économie. Donc, vous voyez le défi, il n'y a pas un patron type comme un patron où on dessinerait une courbe et puis on n'a plus qu'à la coller et attendre. Non, pas du tout. Chaque crise a sa propre spécificité. Eh bien, je vais vous livrer un petit... Enfin, j'accélère. Donc, je m'arrêterai au moment où... C'est une heure, hein, que... D'accord. Alors, je vais vous proposer je vais vous proposer mon jeu de Lego ou de mécano, ça dépend l'âge que vous avez. 5 enchaînements. Et vous serez autant que moi détecter les prochaines crises. Et alors, si j'avais le temps, je vous ferai un exercice après. Je ferai psyoer une enveloppe et vous me décrirez les chiffres. Alors, il faut commencer à l'origine. Les marchés financiers sont faussement des marchés parfaits, car on échange des échanges de promesses. On a un titre qui vaut si l'état de l'industrie est le bon et si mes concurrents ne détruisent pas mon innovation. Et vous voyez très bien que c'est un produit très complexe. Ce n'est pas simplement un bien standardisé, ce n'est pas un bien de réputation, comme le, par exemple le choix d'un avocat ou d'un médecin. Vous le testez, puis vous le sélectionnez. C'est un actif qui est complètement ouvert sur l'incertitude de la nature et des interactions de tous les acteurs impliqués. Et vous voyez bien qu'on échange un produit à la qualité non définie et variable au cours du temps. Alors, si on tient compte de ça, les acteurs sont perdus. Donc, ils ont à se former des anticipations. Et pour se former des anticipations, les pauvres malheureux, ils ont leur modèle à eux et ils ont le modèle de la société. Alors, le grand travail de Schiller a consisté à montrer que nous ne comprenions pas le fonctionnement des marchés boursiers si on adoptait la vision de l'homo rationnel qu'il connaît parfaitement. Dans ce diagramme-là qui décrit un siècle et demi d'évolution des cours boursiers, en noir se trouvent les cours effectifs et dans les deux lignes fines, supposant que l'on connaît parfaitement les dividendes, que l'on connaît parfaitement le taux d'escompte pour le temps des acheteurs d'actions, quel serait le cours théorique de l'action ? Vous voyez, donc vous voyez, c'est des anticipations plus que rationnelles, elles sont parfaites. Donc, vous voyez, on a complètement forcé le cas. Regardez que la valeur fondamentale retrouve, la valeur fondamentale de la théorie recouvre les cours, simplement, cette fois, dans toute la période, par définition. Alors, parce que n'oubliez pas que l'échelle logarithmique de 100 à 1000, ouais, dans cette échelle-là, ça s'est multiplié par 10, donc les écarts sont considérables. Du coup, vous avez le grand régulateur de l'allocation du capital, en théorie, a cette propriété de socialiser les transactions, mais hélas, il ne converge presque jamais vers la valeur fondamentale. Et alors, ça pose un très, très joli problème. Et là, je veux signaler un modèle déjà très ancien de mon collègue André Orléans sur l'incertitude des marchés. Vous êtes un boursicoteur. Vous examinez le prix, alors par exemple, de Facebook. C'est un bel exemple quand même. Vous ne trouvez pas valoriser une firme qui est composée des relations mutuelles que vous avez entre vous. Très honnêtement, attendez ça, c'est pas un exercice de micro de première année. Oui, c'est compliqué. Alors, la incertitude. Alors, vous pouvez faire, ça va réussir, ça va pas réussir. Et puis, vous regardez le prix. Oh là là, le prix monte. Il y a sans doute des acteurs qui ont une information meilleure que la mienne. Donc, le prix que je vais estimer, c'est mon évaluation à moi, plus l'information que me donne le marché. Si je suis très certain de moi, je me moque du marché. Alors, si c'était le L, et si c'est le cas, ben c'est magnifique. Les marchés ont la bonne propriété. Imaginez qu'on ouvre le marché une fois par an et on dit la valeur de Facebook, c'est ça. Ça aurait une magnifique distribution en cours, magnifique. Maintenant, imaginez qu'on augmente l'incertitude. Oh, certains disent du bien de Facebook, c'est du mal, ça ne va pas réussir. Donc, on élargit la distribution gaussienne. Pas de problème, la théorie peut se faire. Mais si ça croît encore l'incertitude, je vais de plus en plus me fier au marché. Et là, il y a un magnifique phénomène qui est tel que la densité de probabilité a deux pics, les baissiers et les haussiers. Et plus on est incertain, plus on suit le marché, on n'a plus que les deux pics, de telle sorte que disparaît l'information. La valeur fondamentale a totalement disparu, le marché oscille des valeurs haussières et baissières. Vous voyez le problème. Et alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que maintenant, imaginons qu'on a une innovation financière, parce que toutes les bulles viennent d'une innovation. On a pu faire des belles tulipes, on crée la Compagnie des Indes, on a la Silicon Valley. Vous voyez le problème. Si on est en régime permanent, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de spéculation sur ce stylo. Ça, même si on ouvre un marché à terme, ça n'avait pas de problème. Par contre, chaque fois que vous avez une innovation, il faut se former des anticipations. Et imaginez qu'il y ait quelques acteurs qui lancent le mécanisme. Voilà que par effet d'autoréférence, les cours montent. Des individus même peu informés voient le prix des actifs augmenter. Ils ne s'interrogent pas sur la qualité de l'innovation. Ils ne voient que les prix qui montent. Et de cette façon, on n'a pas tellement besoin d'invoquer l'irrationalité. Il est assez logique d'essayer de s'enrichir avec les autres. Un mimétisme est relativement rationnel et stratégique. Et du coup, c'est tellement excessif, puisque plus personne ne s'occupe de cerner la rentabilité exacte, la moindre mauvaise nouvelle sur cette innovation, vous fait chuter un crack. Et alors là, la chose qui est tout à fait intéressante, soit une intervention publique sauve l'innovation, soit l'innovation est insauvable, comme le système de l'eau, et alors on repartit dans un autre système à la recherche d'une autre innovation. Donc vous comprenez pourquoi les bulles se répètent. Parce que le capitalisme est l'innovation, et personne ne sait quelle est l'innovation, et donc se forment des conventions par l'équilibre du marché. Et la socialisation des anticipations ne permet pas nécessairement la convergence de la valeur fondamentale. Le fonctionnement normal, c'est dans les bulles. Et vous voyez pourquoi c'est... Alors là, Roger vient de le passer, là, la liste presque complète de toutes les bulles. Vous voyez très bien qu'elles se succèdent à des endroits divers et ont quasiment les mêmes caractéristiques. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Et on peut aller très, très loin. Donc, on a une profondeur historique dans la liste des crises. Ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène d'objet. C'est une maladie rare, peu fréquente, mais si on multiplie l'échelle de temps et l'échelle géographique, on a beaucoup d'observations. Deuxième mécanisme. Alors, j'aimerais vous convaincre que les marchés financiers ne peuvent pas percer l'incertitude radicale. Et plus elle est radicale, plus les marchés sont perdus. Et plus ils... Alors, pour donner un exemple du modèle précédent, j'ai étudié les entrées de capitaux au Brésil. La crise, en septembre, arrive. Oh, le Brésil est perdu. On retourne à la qualité vers les États-Unis. Oh, les États-Unis ne sont pas le problème. Les capitaux retournent au Brésil. L'économie américaine a un plan de sauvetage. On retourne aux États-Unis. On a des doutes aux États-Unis. On retourne au Brésil. Le tout en 3 ans. Vous voyez cet aspect de... Voyez, on est bien dans les deux extrêmes. Attendez, la courbe d'entrée reproduit exactement, ça entre et ça sort avec une fréquence au prorata des nouvelles qui font changer. La convention ne tient pas, il faut retourner. Donc vous voyez très bien, et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça le phénomène majeur. La relation de crédit maintenant. Bien sûr, parce que la plupart des firmes se financent non sur la bourse, mais sur le crédit. Alors là, il y a un mécanisme qui est très très profond. Lorsque vous allez chez votre banquier, le taux d'intérêt qu'il vous donne, surtout si vous êtes une entreprise, est conditionné par le risque de faillite. Si vous êtes riche et très bon entrepreneur, vous aurez quasiment le taux du marché monétaire. Si par contre vous avez une activité risquée, vous avez une prime de risque. Mais imaginez maintenant que vous fassiez de bonnes affaires. Alors, vous avez de bons profits, donc se recule la probabilité de faillite, et donc votre banquier vous donne de l'argent. Avec de l'argent, vous vous formez du capital, et comme vous avez un capital qui se valorise, vous pouvez aller retrouver le banquier qui vous donne un crédit. C'est l'accélérateur financier révisé par Bernanke à partir d'une idée fondamentale de Minsky. De sorte que dans un mécanisme d'accélérateur financier, si on a un choc de productivité, le fait que le banquier est prêt à vous donner plus puisque vous êtes plus riche, vous voyez, très bien, le banquier donne rarement aux pauvres. On va voir, on les supprime en donnant aux pauvres, mais ça s'est mal terminé, sauf pour Wall Street. Donc, le multiplicateur financier double le multiplicateur. Pareil pour les chocs de demande. Et alors, ce qui est dramatique, on se croit riche. Par exemple, moi, j'ai toujours frappé, les Irlandais se sont crus riches de leur dette. Et alors, au lieu d'avoir un multiplicateur du BTP de 0,1, c'était 0,6. Il faut très bien que c'est explosif, les effets de richesse qu'a mentionné Roger. Vous voyez, parce que j'ai dans mon compte bancaire, qu'est-ce que je suis riche? Mais c'est une dette. Et vous voyez très bien que c'est exactement le phénomène qui s'est produit dans la crise actuelle. Donc l'accélérateur financier rendait les pauvres même riches. Le prix de leur logement augmentait, ils pouvaient se refinancer le prêt hypothécaire en entrant un prêt pour acheter une voiture à crédit. La voiture à crédit, ils pouvaient se payer. Vous voyez le type de dynamique d'enrichissement. Et alors, bien sûr, vous pouvez rajouter ça, des biais psychologiques. Il y a les optimistes, il y a les pessimistes, il y a l'aveuglement, la course. Vous pouvez rajouter la finance comportementale de Schiller, mais j'en ai pas besoin. C'est-à-dire, vous avez, dans ces cas-là, vous avez des acteurs totalement rationnels et même cyniques, stratégiques, et puis d'autres pas. Mais la pure rationalité est suffisante pour engendrer ce mécanisme. C'est ça qui me semble très important. Sinon, ouais, on pourrait se corriger, on pourrait apprendre à l'école comment se comporter financièrement rationnellement. C'est un phénomène, c'est assez rationnel, ce type de mécanisme. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant, bien sûr, plus les systèmes sont libéralisés, plus ils sont sensibles à ces mécanismes-là, puisqu'on peut utiliser la richesse accumulée sur un actif-là pour un autre actif, vous voyez très bien qu'on va avoir une idée. Alors, ce qui est assez intéressant, moi j'ai un bouquin absolument favori de Philip Davis qui s'appelle « Financial Fragility and Crisis », 1992. Il prend toutes les crises qui naissent de l'abandon du Bretton Woods, crédit interbancaire, crédit au PVD, et chaque fois il étudie le spread. Si vous regardez la taxonomie, au début, tout le monde est tellement optimiste que le spread baisse. Jusqu'au moment où il a tellement baissé qu'il se relève avec la crise. Et si vous regardez bien, la chronologie, le timing est même à peu près le même. Si vous voulez. Le modèle que je vous proposerai d'estimer, c'est probabilité de crise égale nombre d'années écoulées par rapport à la percée de l'innovation. Et vous verrez que vous avez des régularités qui se reproduisent aux États-Unis ou au niveau international, avec à peu près la même séquence. La durée, c'est 5 ans, et dans la nouvelle économie, ça a duré 7 ans. Mais vous voyez, on a ce mécanisme-là. Et donc, il est très profond. Il a été étudié de longue date. Et alors, la chose qui est tout à fait intéressante, c'est que cette convention financière se forme aux États-Unis ou à la City, et elle se propage au reste du monde. Si le Wall Street perd le moral, alors on perd le moral pour le Brésil, la Turquie, même si les marchés financiers sont relativement efficaces et arrivent à différencier le fait que le Brésil n'est pas la Turquie, que le Mexique n'est pas la Pologne. Mais vous voyez la chose qui nous fait intéressante, et on voit bien un phénomène de macro, de socialisation, c'est-à-dire que les financiers ne peuvent pas calculer à travers leur modèle. Donc il y a brutalement l'idée, les pays émergents sont risqués ou non, et ça se diffuse à l'ensemble des marchés. Donc c'est une sorte de mécanisme de coordination. Et le drame, c'est que ça amplifie les bulles. Et ça amplifie les crises, puisque grosso modo, c'est un mécanisme qui est relativement indépendant du mécanisme du marché. Il est dans la formation des anticipations. Et du coup, d'ailleurs, il y a un domaine très, très privilégié de recherche, c'est la sociologie des marchés financiers. Il apparaît que les traders de Wall Street forment un milieu qui partage le même habitus, pour appeler le langage de Bourdieu, et de telle sorte qu'une grande partie de la coordination macro des marchés financiers vient des représentations du monde quand un certain nombre d'acteurs très influents. Donc, vous voyez la chose qui est intéressante, elle ne se passe pas à l'extérieur par les marchés, elle se passe. Alors, les crises financières, troisième composante, j'appelle ça la résonance. Personne n'est parfait, Roger et moi, nous sommes ingénieurs des ponts. Et on a découvert un certain temps que si on faisait marcher une troupe au pas sur un pont à la même fréquence que la fréquence naturelle du pont, le pont s'écroulait. Eh bien, c'est la même chose pour les actifs financiers. Imaginez que le péché originel des pays du tiers-monde, c'est qu'ils ne peuvent pas émettre des dettes dans leur propre monnaie. Donc, ils sont obligés des dettes dans une monnaie internationale. Mais leur banque centrale n'émet pas dans cette monnaie-là. Et du coup, vous voyez très bien que dès lors que vous avez le moindre problème de balance extérieure, les banques font faillite, car elles ont consenti des crédits en dollars. Et la dette elle-même se survalorise parce que, avec la dévaluation de la monnaie. Donc vous voyez très bien que c'est comme ça qu'on explique le caractère très sévère des crises asiatiques. C'était la combinaison, un endettement en monnaie étrangère, une crise de balance des paiements, et les deux se conjuguent et vous engendre, si vous voulez, une dynamique qui n'aurait pas eu lieu si simplement, vous voyez, aux États-Unis, M. Bernanke peut émettre des dollars. Vous voyez le problème ? L'absence de cette variable rend que les crises sont très souvent doubles, puisque par définition. Je ne vais pas développer. Alors du coup, on peut classer presque tous les modèles. Et alors, vous voyez très bien pourquoi la modélisation est très difficile. Parce que vous avez des relations mutuelles entre cinq. Et encore là, il manque le crédit immobilier, que mes collègues, dans ce rapport du CAE, n'avaient pas voulu inclure. Vous avez crise du crédit bancaire, suraccumulation productive. Par exemple, la crise qui mûrit en Chine, c'est lorsqu'on investit 51% du PIB en capital productif, il se peut qu'il y ait un peu de suraccumulation. Imaginez que l'économie ralentisse, vous aurez un problème de crédit bancaire. Vous avez une crise de change, vous avez une crise de dette souveraine, vous avez une crise boursière et vous avez une crise immobilière. Et lorsque les 3 ou 4 ou 5 se synchronisent, vous comprenez que la crise acquiert une gravité tout à fait considérable. Alors pour ça, vous voyez, il suffit maintenant de regarder les crises des pays émergents et vous voyez qu'une partie de la gravité s'explique largement par le fait que la synchronicité de crise. Et donc, vous voyez que la déréglementation financière, qui avait de très bons motifs, optimiser l'allocation du capital, peut avoir comme contrepartie une fragilité extrême parce que les calculs sont interdépendants. À la moindre erreur d'évaluation, c'est l'ensemble des systèmes de paiement et des actifs financiers qui s'écoulent. Et voilà la contrepartie de ce phénomène. Si vous avez des marchés segmentés, vous avez, par exemple, dans le cas de la crise des savings and loans à Texas, c'était limité au Texas. Donc, vous n'avez pas eu de contamination. Et l'erreur des économistes américains dit que c'est la même crise que du Texas. Non, parce que il y avait spéculation boursière, profit des banques d'investissement, crédit aux étudiants, si vous voulez. Le surendettement s'était étendu à l'ensemble des actifs. Et donc, on n'avait plus du tout la même configuration. Alors, mon cas favori, pourquoi les États-Unis ne sont pas tombés dans une décennie perdue après l'éclatement de la bulle Internet ? Tout simplement parce qu'au Japon, Vous avez une bulle immobilière tout à fait extraordinaire. Pour vous donner... Alors, dernier point, je ne suis pas de ceux qui disent que les bulles immobilières ne peuvent pas se détecter. Non, vous regardez la valeur de location sur la valeur du bien de capital, et je peux vous assurer, à défaut, vous regardez valeur du logement sur revenu disponible, et vous avez de magnifiques indicateurs. Dans le cas du Japon, le salaryman moyen avait besoin de 2,5 vies pour payer son logement, si ce n'est pas une bulle. Vous voyez le problème. Et alors, des collègues américains disaient, mais non, ce n'est pas grave, les Japonais sont tellement riches que tout le monde va vouloir. Alors, par exemple, l'espace du palais de l'empereur valait plus que le territoire de toute la Californie, le PIB. Vous voyez très bien, c'est un espace désert. Vous voyez bien que ceci s'appelle une bulle. Très bien, c'était le commerce du vent. Et mes collègues disaient, mais non, Tokyo va devenir le centre du monde. Mais non, c'était une bulle. Dans le cas de la bulle Internet, l'immobilier est très tranquille. On a une bulle Internet. Et puis, les ventures capitales spéculent avec beaucoup de leur capital. Ils perdent leur capital, mais il n'y a pas beaucoup d'effet de levier. Donc, on relance l'économie, on baisse les taux d'intérêt, et c'est Greenspan qui organise une bulle immobilière pour sortir de la bulle Internet. Vous voyez à nouveau l'aspect intéressant. Donc, l'astuce de Greenspan, ça a été d'organiser la séquence de deux bulles. La maladresse du banquier central japonais, ça a été de laisser... Alors, tout à fait surpris par la libéralisation du marché financier interne et externe, il s'est laissé surprendre par une bulle qui démentait tout le savoir-faire d'une gestion par la bureaucratie du ministère des Finances. Vous voyez comment arrivent les crises. Là aussi, la représentation était intéressante. Les responsables japonais n'avaient pas l'idée d'une bulle, d'une économie déréglementée, parce que c'était la première fois qu'ils l'observaient, alors que les États-Unis avaient commencé bien avant. Alors, dernière différence entre qu'est-ce qu'un pays émergent, qu'est-ce qu'un pays... non émergents. Eh bien, les pays émergents comme le Pérou, lorsqu'arrive une crise, on demande de couper le budget. Alors, les pauvres Grecs sont, hélas, dans la catégorie des économies émergentes. Si vous êtes au Royaume-Uni, regardez, vous avez le PIB en noir, en pointillé, eh bien, on dépense à tout berzingue. Donc, la chose qui est tout à fait intéressante, et alors je vous laisse penser le futur de la règle d'or, si vous synchronisez votre politique budgétaire avec l'évolution de l'économie privée, vous vous privez d'un degré de liberté de stabilisation. Donc, vous voyez à nouveau l'élément intéressant. Et là, ça fait... Alors, pourquoi les crises sont si graves dans les pays émergents? C'est tout simplement que la politique budgétaire elle-même perd toute capacité contracyclique. Et donc, elle continue à approfondir la dépression de l'économie privée. Quatrième ingrédient, vous saurez presque tout. Je pourrais presque m'arrêter si je déborde. Quel est le destin des crises? Est-ce que le système bancaire dans sa totalité fait faillite ou non? C'est ça le destin des crises. Parce que, grosso modo, si on regarde bien, on a deux fragilités des banques. L'une très bien connue dans l'histoire de l'émergence de la banque commerciale. En gros, les déposants n'ont pas confiance et vous avez une panique bancaire, chacun retire. Mais la banque était solvable, c'est simplement un rêve. Mais le drame, par exemple, prenons Northern Rock, on a donné des crédits qui ne sont pas remboursables tellement on a relâché les contraintes de qualité du crédit. Des mauvais bruits disent « Northern Rock est en faillite » et vous avez une panique bancaire. Donc vous avez une panique par le passif, c'est sur les modèles standards de la littérature, et vous avez une panique par l'actif. Et alors bien sûr, les banques sont très fragiles aux crises financières. Vous voyez. Donc lorsqu'on est passé à la finance directe, on a imaginé « on va éliminer les crises ». Parce que regardez la fragilité extrême, sans compter les crises d'inégale maturité. Vous avez des crédits longs, et vous avez des dépôts courts. C'est pas Northern Rock, pareil, se financer au jour le jour des investissements immobiliers. Ça finit mal parce que il y avait. Donc vous voyez, donc c'est un objet très très subtil et il a fallu, je rentre pas dans le détail, mais il a fallu un siècle et demi de réglementation pour éviter que le système bancaire ne s'effondre à chaque crise financière parce que c'est très subtil. Alors on a créé l'assurance de dépôt, on a créé le prêteur à dernier ressort parce que si toutes les banques restent faillites, les banques riches ne peuvent pas acheter les pauvres. Vous avez bien sûr maintenant les ratios de Bâle qui regardent la et le processus ne cesse avec la loi, la nouvelle loi d'Hobbes. Vous avez à nouveau des nouveaux ratios pour prévenir l'aléa moral qui vient que comme on est couvert par l'assurance dépôt, on va avoir du deuil. Donc vous voyez très bien que la chose qui est tout à fait intéressante, les banques sont tellement fragiles qu'il faut supposer en permanence des réglementations. Et alors, lorsqu'on a abandonné en 1999 la division entre banque d'affaires et banque commerciale, c'était très dangereux parce que, là je passe brutalement en France, la Société Générale comme banque de dépôt a failli passer en faillite pendant le dépôt par son activité de banque d'affaires. Vous voyez la fragilité que vous introduites. Si une banque d'affaires fait faillite, Bernard Stern, elle se fait racheter par une autre banque. Si une banque de dépôt fait faillite par son activité financière, vous voyez très bien que c'est le système de paiement tout entier qui est en jeu. Donc vous voyez à nouveau le caractère pivotal des banques. Alors si vous regardez bien dans ce schéma-là, qui est un peu analogue à celui qu'a présenté Roger tout à l'heure, toutes les potentialités de crise, suraccumulation du capital, bulle immobilière, spéculation boursière, spéculation sur le change, déficit public, se reportent sur la banque. Et si vous l'allez, c'est elle qui totalise, parce que pourquoi ? Elle gère la liquidité. Avant la crise, vous avez une abondante liquidité. Au moment où arrive la crise, plus personne ne veut prêter à plus personne. Mais la liquidité, sache brutalement, par une chute quasiment verticale, il n'y a plus de liquidité. Si vous n'influez pas cette liquidité, c'est la crise de 29, effectivement. Alors, je crois qu'il y a plus que l'erreur de la Banque centrale, il y a aussi le moteur de croissance lui-même était groupé, mais ça c'est une autre question. La banque est vitale. Et alors la chose qui est intéressante, comment les banquiers américains ont-ils argumenté ? Ils ont dit le système, la banque gère le système de paiement, et le système de paiement, c'est un bien public. Donc, la chose qui est tout à fait intéressante, les banquiers américains ont été extrêmement habiles, gérant un bien public, ils ont été sauvés en tant que banquiers et en tant que titulaires d'un bien public. Et comme on est aux États-Unis, on n'aura pas beaucoup imposé de retour aux impératifs d'ordre public. Du coup, dernier point, vous voyez, là, plus on approfondit les crises, plus elles sont des objets divers. Un, défaillance ponctuelle d'une banque parce qu'elle a fait de mauvaises affaires, ça arrive très souvent. Crise financière endogène comme conséquence de l'agitateur financier, Northern Rock. Et puis vous avez un choc macroéconomique dont l'ampleur dépasse la capacité d'absorption du système bancaire. Par exemple, dans le cas de l'Argentine, c'est le cinquième mécanisme que je vais développer. En gros, un afflux de capital arrive qui se retrouve dans les banques, mais le choix d'un taux de change surévalué contracte le secteur des biens échangeables, du secteur exportateur, de sorte qu'il n'y a pas assez de dollars pour rembourser les prêts qui sont entrés. Et vous voyez très bien que la faiblesse ne vient pas nécessairement des banques, elle vient de l'incohérence avec le modèle macroéconomique en vigueur. Et alors là, si on prend à nouveau les crises, 1929, ah oui, à 87, une crise méconnue, hein, techniquement, la bourse de Dow Jones chute comme dans les années 30. Et il ne se passe rien, mais tout simplement parce que c'était tout ça. Alors, vous savez quelle est cette crise ? Alors, il y a un papier d'Econometrica tout à fait intéressant. C'est tout simplement la diffusion des logiciels permettant de vendre très rapidement dès lors qu'il y a une chute supérieure à un taux fixé. Tous les acteurs ont utilisé ce logiciel et pour la première fois, vous avez un effet de composition. Chacun se couvre en vendant et c'était simplement une crise du mécanisme de formation des prix. C'était une crise tout à fait limitée. Aucune nouvelle défavorable n'était intervenue. L'économie américaine croissait fortement. C'était simplement l'incohérence des stratégies. Tout le monde voulait vendre parce que tout le monde avait adopté le même logiciel. Vous voyez là. Alors, moi, j'ai beaucoup souri parce qu'à l'époque, j'organisais un séminaire sur les crises et tous mes étudiants voulaient à tout prix la comparer à 29. Ça n'avait rien à voir avec 29. Et à nouveau, un même choc, mais une origine différente et donc des conséquences différentes. Alors, dernier point, il existe des régimes de croissance incohérents. C'est par exemple, pourquoi les économies latino-américaines se tirent moins bien que l'économie asiatique ? C'est tout simplement que si vous allez en Corée, ou les nouveaux dragons, vous avez par définition un régime de croissance extraordinairement dynamique. Dans certains cas, la banque ne fait que répercuter les déséquilibres macro. Dans un tableau, si vous connaissez la haute Valras, vous écrivez les opérations réelles, les opérations financières, vous voyez apparaître des déficits dans la partie réelle de l'économie, et ça se traduit mécaniquement dans la finance. Mais l'origine n'est pas financière, contrairement au modèle précédent, mais c'est fondamentalement le régime. Alors du coup, je ne vais pas développer, dans le cas de l'Argentine, stabilisation remarquable du taux de change, disparition de l'hyperinflation, l'Argentine, meilleur élève du FMI, tout le monde veut investir en Argentine. Hélas, ils investissent dans les services tels la distribution d'eau et l'électricité et non pas les secteurs exportateurs. Donc, on ne construit pas, et symétriquement, on importe des biens d'équipement qui rationalisent et rendent plus productif le système industriel, mais qui, hélas, le contracte au point que la valeur ajoutée qui peut être exportée diminue. Et vous avez donc le phénomène que on ne peut pas rembourser les capitaux qui sont rentrés attirés par la stabilité et la forte rémunération des privatisations. Il va être à nouveau, c'est très important, parce que dans ce cas-là, il existe des crises dans lesquelles le système bancaire n'est que l'acteur, le reflet d'incohérences accumulées dans l'économie réelle. Alors, quelle combinaison de ces mécanismes ? Eh bien, tout vient de la multiplicité dont Roger a parlé des innovations financières. La densité d'innovations financières a été sans précédent, puisqu'on prend des dérivés, des corporate default, c'est-à-dire des assurances qui vous garantissent si votre crédit n'est pas remboursé, et on les combine. Et alors, la chose qui est tout à fait intéressante, c'est... Alors, deuxième erreur, là, je vais donner un petit coup de griffe aux agences de notation. Les AAA venaient pour des actifs typiques. Une action de Saint-Gobain, un titre de la dette publique. OK, bon. Grec, à la bonne époque. Mais ces produits dérivés de dérivés ont des propriétés de non-linéarité tout à fait extraordinaires. Le AAA, parce que, grosso modo, même les concepteurs eux-mêmes ne savaient pas les propriétés dès lors que les risques d'immobilier étant synchronisés, l'ensemble des titres s'effondrait. Donc, vous voyez, à nouveau, la question qui est intéressante, c'est qu'une innovation seule aurait été maîtrisable. Leur conjonction a créé un système totalement opaque. Et alors, du coup, on a d'abord une euphorie tout à fait extraordinaire. Tout le monde s'en porte bien. Les classes populaires américaines ont accès enfin au logement. Wall Street est extrêmement content. Les placeurs de prêts hypothécaires gagnent des fortunes. Et on est quasiment au plein emploi. Donc, si vous voulez, c'est le nirvana. Avant la crise, tout le monde est dans le nirvana le plus complet. Les crises ont disparu, c'est extraordinaire. Monsieur Bush est très content. On n'a pas besoin de sécurité sociale, d'aide au logement. Tout va très bien. Et alors, le charme des crises, c'est que ça tombe brutalement, voyez, comme une pierre. Alors là, deuxième différence. Dans ce diagramme qui part des années 50 jusqu'à 2004, en rouge se trouve le crédit aux traders eux-mêmes, c'est-à-dire au secteur financier lui-même, alors qu'en vert se trouve le crédit aux banques commerciales, en brun, aux ménages. Vous voyez très bien que de 75 à nos jours, le crédit au secteur financier a été multiplié par 10, parce que l'échelle est logarithmique. Donc la grande nouveauté de la crise, c'est les effets de levier de Goldman et Sachs qui sont allés de 10, 30, 20, et Bernstein, c'était 50. 50, c'est dangereux parce que si vos actions baissent de 2%, vous n'avez plus de capital. Vous voyez que, attendez, et alors, d'où venait cette sécurité? C'était tout simplement, on avait utilisé des modèles hors de propos. Je vais peut-être y revenir si j'ai le temps. Alors du coup, troisième effet, une résonance absolument magnifique. Bulle immobilière. Mais on n'est pas au Texas, on est tous les États-Unis, de la Californie, la Floride, l'Ohio, tout le monde. Et du coup, d'ailleurs, les propriétés de calcul de la valeur des options est fausse, parce que les risques sont corrélés, alors qu'en les groupant, on avait imaginé qu'on avait diversifié les risques. Deuxièmement, explosion du crédit hypothécaire, forte croissance des produits de la titrisation et valorisation boursière extrême de tous les actifs. Donc vous voyez très bien que... Mais l'origine est quand même bien la titrisation immobilière. Alors, ce qui explique la sévérité, parce que lorsque ça se retourne, la crise immobilière n'était pas si grave que ça. Par exemple, je me souviens que tous les acteurs de l'époque ont dit 300 millions, facile, c'est rien du tout du pays. Milliards. On va passer, je me souviens d'un papier de Patrick Artus, c'est vrai. Et non, parce que personne. Alors voilà, et pourquoi personne n'a connu? Parce que la titrisation a mis hors du système de surveillance de la Federal Reserve Board tous ses actifs. Donc, Bernanke ne connaissait pas la réalité des engagements dans les structural investment vehicles. Vous voyez le problème, c'est que la crise immobilière était claire. Mais on n'avait aucune idée. Alors, pour vous donner un exemple, dans l'Ohio, vous avez des collèges publics qui avaient acheté des produits dérivés qui sont ruinés. Vous voyez le problème. Qui aurait dit que le budget des États américains serait négativement affecté par les produits dérivés? Et on a découvert à cette occasion que les gestionnaires de ces collèges s'étaient fait refiler par leur banque un produit absolument merveilleux, au rendement extraordinaire. Vous voyez, et on le découvre après. Et vous voyez pourquoi les crises sont difficilement prévisibles, parce que l'innovation introduit des mécanismes tout à fait nouveaux. Enfin, quatrième propriété, eh bien, on ne va pas répéter 29, autant de liquidités que vous voulez, surtout ne pas faire effondrer, parce que le système de paiement, c'est le bien public essentiel. Et c'est vrai que dans une économie de marché, si vous supprimez le système de paiement, c'est le cas. Il est strictement impossible. Pourquoi ? Parce que les prix ne peuvent plus se former. Les transactions ne peuvent plus opérer, les systèmes de paiement. C'est le système cybernétique d'une économie capitaliste, c'est son système de paiement. S'il s'interrompt, vous avez une série de petits groupes autarciques. Et donc vous voyez très bien l'aspect qui est tout à fait intéressant. Il aurait été légitime de soutenir Lehman Brothers. Okay. Et Mervyn King, je crois, a eu raison. Parce que, en gros, la panique bancaire s'étendait à tout le Royaume-Uni. Donc, grosso modo, était en jeu une crise bancaire de type 19e siècle. Malgré ses réticences à l'égard de l'aléa moral, il a été obligé de sauver l'institution massive, quitte à aggraver la prochaine crise. Mais vous voyez j'ai suivi les débats. Au début, il était contre, bien sûr. C'est ce qui fait aggraver la crise. Je ne vais pas un aléa moral. Mais devant la pression, c'était l'effondrement du système bancaire. Et avouez que pour la cité qui vit de l'intermédiation financière, ça ne présente pas bien quand même une grande faillite bancaire. Donc finalement, le réalisme a gagné sur l'aléa moral. Mais vous voyez très bien. Et les financiers en ont joué de façon magistrale en disant ben, nous, on n'est pas des banquiers, on est les serviteurs du bien public qui est la stabilité monétaire. Je trouve que c'est un coup d'économie politique absolument. Et alors, dernier point. Dans le sommet de Londres, tous les responsables ont tellement peur qu'ils sont prêts à réglementer, à faire tout ça dans la panique du G20. Arrêtez les mouvements protectionnistes. Et alors, regardez le prochain sommet qui va à Mexico, ça va être blablabla intégral. Sous la pression, arrêtez les enchaînements pervers des protectionnistes de l'entre-deux-guerres. Vous voyez les conditions extrêmement particulières et qui sont toutes tirées de l'expérience. Mais hélas, mais je n'aurai pas le temps de vous le développer, ça ne va pas suffire parce que. Regardons maintenant. Le carburateur ou l'injecteur a tellement bien marché qu'il a fait fondre les bielles du moteur. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est pas grave. Alors parce que derrière ça a disparu le moteur. Pourquoi ? Un. Depuis 71. Alors est-ce que j'ai le graphique qui vient là ? Ah non. Oui. Quasi stagnation du salaire réel du salarié médian. Toute la croissance de la consommation à 2,5% par an est venue de l'accumulation du crédit. Vous ne pouvez pas me rembourser, ce n'est pas grave, je vous en donne. Vous voyez bien. Et ça a duré pendant 15 ans, premier élément. Si le crédit s'arrête, la consommation s'arrête, parce que le revenu, vous imaginez bien que, malgré la légère diminution du chômage, le revenu salarial n'est pas en train de faire des bons. Du coup, la chose qui est tout à fait intéressante, si ce crédit s'arrête, vous avez aussi le fait que vous tuez le mécanisme de genèse de la demande effective. Et le pire, c'est que comme le surendettement a duré pendant 12 ans, pour vous endetter, c'est un processus qui va durer 6, 7, 10 ans. Vous voyez le problème ? Il y a de tels ratios d'endettement, dette sur capital propre, que l'idée d'un ajustement, vous voyez, on fait un ajustement d'austérité, et puis c'est fini. Non, ce mécanisme prend... Alors, souvenez-vous de la France des inflations compétitives ou des entreprises japonaises, il leur a fallu 15 ans pour se désendetter. Donc, vous voyez très bien que le moteur est durablement... Ça s'appelle en termes techniques le deleveraging, c'est-à-dire la restructuration des bilans pour rétablir un équilibre viable entre le capital propre et l'endettement. Alors, maintenant, voyons la spécificité. Il y a trois éléments. Un, la finance déréglementée à jouer. Et ne croyez pas que ce soit une position idéologique ou politique, elle est purement analytique, c'est le pont et la résonance, ça n'a rien à voir avec c'est bien ou c'est pas bien, c'est tout simplement un phénomène intrinsèque de la déréglementation. Deuxièmement, le régime de croissance était fondé intégralement sur le crédit. Au régime fordiste que nous avons beaucoup étudié avec Michel Aglietta, succède un régime très incertain d'approfondissement des inégalités, 80-90, et puis à partir de 90, tout va sur le crédit. Si le crédit s'arrête, alors vous avez là un mécanisme profond de quasi-stagnation des perspectives non effectives. Et dernier point, l'internationalisation aggrave. Heureusement que la Chine n'a décru que le PIB de la croissance du PIB de la Chine de 10 à 8%. Parce que, paradoxalement, l'Inde, le Brésil, la Chine ont joué un rôle stabilisateur. Heureusement qu'ils n'avaient pas introduit la finance de marché. Parce que imaginez qu'ils aient connu la même synchronisation. Et la chance de la stabilisation de l'économie mondiale est venue du fait que certaines autres économies jouaient le rôle d'un capitalisme industriel, produisent en masse des biens exportés dans le monde entier, sans jouer la finance. Heureusement, parce que si les Américains avaient exporté comme ils le voulaient, le même mécanisme en Chine, vous auriez eu la synchronie. Et alors là, je vous signale, c'était la grande crise mondiale. Donc, paradoxalement, les élèves qui étaient en retard dans l'ouverture financière ont stabilisé l'économie. Et du coup, des fois, ironiquement, lorsque les innovations financières sont très dangereuses, il est bon d'être en retard. Parce que comme ça, les pays avancés entrent en crise et soi-même, on peut adapter un système beaucoup plus viable. Et c'est le charme des pays émergents. Les pays émergents sont en bien meilleure situation qu'aux États-Unis. Ils ont vu l'expérience et les Chinois sont très malins pour ça. Parce que lorsqu'ils introduiront ces mêmes produits rénovés, ils feront attention de ne pas répéter les Américains, alors que les Américains ont donc quasiment 10 ans. Alors, laissez-moi vous décrire, à mon avis, je vais voir pourquoi la crise est si importante. Parce que c'est toute l'organisation économique américaine, puisque le titre de ton séminaire, c'est l'organisation sociale qui est en jeu. Voilà. L'organisation du marché hypothécaire, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a deux façons de voir ceci. Pour ceux qui font les options, ils regardent dans les séries passées la valeur de l'option. Mais si vous prenez la théorie du hasard moral ou de la sélection adverse, le fait que je puisse me débarrasser de mon crédit en le titrisant va changer mon comportement. Qu'est-ce que je vais faire ? D'abord, je libère mon bilan et donc mon capital tourne beaucoup plus vite. Et deuxièmement, la qualité, je ne m'en préoccupe pas puisque c'est un autre qui a à s'en charger. De telle sorte que s'il y avait en quelque sorte, si vous voulez, Lucas contre l'économie financière. Lucas nous dit, si on change les règles du jeu, change les comportements. Le comportement change dans un sens de détérioration permanente de la qualité des biens titrisés, puisque grosso modo, moi je les mets, mais je le redistribue. Et je le redistribue dans des conditions où le produit est tellement complexe que ceux qui l'achètent ne sont pas nécessairement capables de comprendre. Vous voyez, par exemple, moi ce qui m'a beaucoup surpris, les banques suisses ont acheté en masse des produits toxiques, parce que toute banque suisse qu'elles étaient, aucun de leurs traders n'avait la connaissance pour contrôler ce produit. Vous voyez le problème d'asymétrie d'information. Et ce qu'il avait fait, on ne les laisse pas montrer, qu'ils en avaient à peine la maîtrise, ils ont découvert. Deuxième élément, comme les banques allemandes ou suisses sont prudentes, elles vont acheter une assurance. C'est-à-dire, si mon titre, je ne peux pas être remboursé, je paye une assurance, un prix de 5%, et si par hasard je ne suis pas remboursé, on me paye. Et pourquoi donc la faillite la plus monumentale est-elle d'AIG ? Parce qu'à Londres, vous avez 1700 traders qui ont inventé ce marché de couvrir corporate defaults de tous les produits dérivés. Et au début, pendant 5 ans, il n'y a aucune faillite, je m'arrête. Du coup, des profits absolument extraordinaires. Lorsque les achats de logements s'arrêtent, le prix se retourne, il se retransmet dans les produits dérivés, et c'est AIG qui plonge la première après Lehman Brothers. Vous voyez, alors, ça m'avait étonné quand même. Qu'est-ce que vient faire la plus grande compagnie d'assurance ? Et alors, je converge avec l'idée qu'a énoncé Roger Guenry, c'est la rupture de la responsabilité du contrat. Parce que pour moi, quelle est l'institution de base d'une économie de marché ? Un, le système de paiement. Deux, le contrat. Si dans le contrat, je peux évader de ma responsabilité de garantir la qualité du contrat. Par définition, les créances sont socialisées à l'ensemble de l'économie et j'ai une crise systémique dans laquelle seule la collectivité publique peut récupérer l'extrême division du travail. Et c'est ça, alors je m'arrêterai là, l'extrême nouveauté. Pour le dire en un mot durkheimien, nous vivons une crise de l'anomie de la division du travail dans la finance. Et comme l'information n'est pas publique, bonne chance aux banquiers centraux, aux régulateurs, parce qu'ils n'ont pas l'information leur permettant de re-réglementer. Ce qui me permet de dire que la crise est qualitativement beaucoup plus complexe et beaucoup plus grave que celle de 1929. Je m'arrêterai sur ce frisson. Donc, investissez dans la crise, elle va durer.